chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour chers amis auditeurs et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Alors nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Chanter pour le Seigneur. Et Martine, quel est le thème et quel chant bien sûr avez-vous choisi pour cette semaine ?
Alors comme nous venons de parler de la fête de la Croix glorieuse, je vous propose de continuer aujourd'hui à vous parler de la croix. Principal symbole du christianisme, instrument de supplice sur lequel on attachait ou clouait les condamnés à mort. Pour les chrétiens, la croix, en raison de la condamnation et de la mort de Jésus, est symbole du mystère pascal et signe de salut pour l'humanité. Elle révèle l'amour infini de Dieu dans le don salvifique du Christ mort et ressuscité. Elle nous rappelle, bien sûr, notre baptême par lequel nous devenons enfants de Dieu. Et Emmanuel, j'ai donc choisi comme chant « Au cœur de nos détresses » côté au sécli HP128 et dont l'ancienne cote était H128. L'auteur est Michel Skwarnek, le compositeur Joachim Simas, et c'est édité aux éditions Signe Musique. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit l'évangile de Matthieu. C'est de ce verset de l'évangile que s'inspire ce chant. Il attire particulièrement notre attention sur les lieux de détresse, de tempête, de solitude, où le Christ rejoint l'homme au cœur de sa souffrance. Il nous invite à ouvrir les yeux, alors que bien souvent, nous passons sans le voir. Une très belle mélodie, un chant pour la Semaine Sainte, Rameau, Vendredi Saint. Vous me direz, Emmanuel et chers auditeurs, que c'est un petit peu loin, mais ça nous met un petit peu dans l'ambiance préalable.
Ça nous permet de patienter.
Tout à fait. Mais aussi un chant pour les funérailles. Et nous allons l'écouter interprété par l'ensemble vocal de l'Alliance.
C'est toi qui
Alors Martine, quelle est l'évolution des représentations de la croix au cours des siècles ? Éclairez-nous.
Jusqu'au IVe siècle, avènement de Constantin en 312, la croix est simplement suggérée. Ancre, dauphin et trident, poisson dans un plat, etc. Avec Constantin, la croix, sans le crucifié, devient signe de victoire sur la mort, de salut dans le Christ et de gloire. Par ce signe, tu vaincras. C'est, raconte-t-on, le message de la vision de Constantin avant sa victoire sur Maxence au pont Milvius en 312. C'est ainsi que celui-ci fit orner de la croix les labarum de ses légions. La victoire de Constantin devenait la victoire de la croix. La découverte de la vraie croix à Jérusalem, traditionnellement attribuée à la mère de l'empereur, Sainte Hélène, amplifia encore ce mouvement de vénération de la croix. Une croix pâtée, dorée et parée de bijoux, qui signifiait le salut plus que le rappel de la mort ignominieuse de Jésus. Les croix se multipliaient ainsi dans les absides des églises de Ravenne, Saint-Ambroise à Milan, fait construire sa cathédrale en forme de croix latine. Par sa forme, dit-il, c'est le temple de la victoire du Christ. Mais aussi, elle va marquer le corps. Collier, vêtements, notamment liturgiques, elle devient le signe du salut dont on se couvre, que l'on invoque dans les moments difficiles. Elle deviendra signe d'identité et d'appartenance au groupe chrétien. Plus tard, elle ornera le bouclier des croisés et même les oriflammes des inquisiteurs. Entre le IVe siècle et le VIe siècle, les querelles théologiques autour de l'identité du Christ, est-il un homme fait Dieu, un Dieu fait homme ou Dieu faisant semblant d'être homme ? Elles vont faire émerger la représentation du crucifié sur la croix pour insister sur la nature humaine de Jésus. Mais on n'osera pas le représenter mort sur la croix, les yeux fermés, qu'à partir du 8e siècle, les chrétiens rechignant à représenter mort celui qui est le ressuscité. L'art roman résoudra le paradoxe, croix-résurrection, en représentant un Christ peu marqué par la souffrance, revêtu d'une tunique royale et souvent couronnée. C'est autour du XIIIe siècle, avec surtout Saint François, que l'humanité douloureuse du Christ s'exprimera le plus. On est sensible alors à un Dieu qui a pris la condition de l'homme et s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. La croix deviendra alors le signe par excellence de notre statut. C'est par ses souffrances qu'il nous a sauvés. Les crucifiés sont dénudés et souffrants. Mouvement qui va culminer au XIVe siècle, siècle de la grande peste qui décima l'Europe. La compassion et le tragique prendront le pas sur l'expression de la gloire avec l'émergence de la figure de Véronique, dont la tradition veut qu'elle ait recueilli le visage du Christ, Veroinikoinika, de Jésus dans sa passion.
Thank you.
Nous venons d'écouter ce célèbre aria en ré de Bach. Nous continuons avec Martine Dufour sur la croix catholique, sujet d'aujourd'hui dans le cadre de l'émission Chanter pour le Seigneur. Si je comprends bien, ce sont les prémices des chemins de croix, n'est-ce pas Martine ?
Absolument, Emmanuel. C'est la naissance des chemins de croix dont la forme définitive ne s'affirmera qu'au XVIIe siècle en Espagne. Les signes de la Passion sont représentés autour de la croix ou sur la croix elle-même. Croix dite des impropères, reproche de Dieu à son peuple. Impropères qui sont chantés au Vendredi Saint. Où le crucifié est tout simplement remplacé par les outils de la Passion. C'est la période où les représentations expriment plus le tragique. Ce n'est plus seulement le Christ douloureux que l'on représente, mais le mal même qui nous ronge et que l'on crucifie avec lui pour qu'il nous aide à en triompher. La réforme, initiée par Luther au XVIe siècle, inaugurera une nouvelle période iconoclaste. Luther ne dédaignait pas les images, mais il s'en méfiait. La nature humaine étant prompte à l'idolâtrie, disait-il. Ses disciples, Calvin comme Zwingli, furent plus radicaux et les croix, comme les autres images, disparaîtront des églises au moins pour un temps. En réaction, le Concile de Trente organisera ce que l'on appelle la contre-réforme, fidélité accrue au texte biblique et contrôle ecclésiastique pour les images réalisées pour un lieu de culte.
Il y a également une représentation différente dans l'art qui évolue selon les siècles, Martine.
Alors, en réaction avec la rigueur des réformés, se développèrent des mises en scène spectaculaires de la crucifixion dans un but de toucher les cœurs et d'amener à la conversion. Nous voyons ça dans les tableaux du Rubens, de Tintoret, du Greco. Le jansénisme du XVIIe siècle, avec son principal représentant dans l'art, Philippe de Champaigne, retrouvera un temps la sobriété et l'austérité dans la représentation. Le crucifié mourant seul sur un fond sombre. Même Marie et Jean ont totalement disparu. Avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et le départ de nombreux réformés, l'art se fit moins persuasif et davantage au service du monarque, avec des références plus gréco-latines qu'évangéliques. La maîtrise picturale de la beauté du corps humain se substituera au caractère expressionniste des siècles précédents. Et on en citera un exemple qui est la crucifixion de Velázquez en 1630. Le XIXe siècle vit s'épanouir un art sulpicien qui renforça le dolorisme et une piété populaire où le sentiment souffrit beaucoup d'une carence d'éclairage théologique. Le XXe siècle, marqué par le traumatisme de deux guerres, fut le théâtre d'une nouvelle révolution dans l'art. Renonçant aux normes académiques des siècles précédents, la représentation de la crucifixion ne sera plus la belle image respectueuse de l'iconographie traditionnelle, mais c'est la personnalité de l'artiste et sa conception personnelle du sacré qui influenceront la création. Et l'image du Christ en croix renvoie à l'artiste à sa propre image ou à celle de l'homme angoissé face au monde dans lequel il vit.
Thank you.
Nous venons d'écouter Mystère du Calvaire, nous continuons avec Martine sur la croix catholique. Alors Martine, comment aujourd'hui considérer la croix concrètement ?
Alors, la croix, Emmanuel, est aux Romains ce que la guillotine est aux Français. Vous me direz, c'est un peu un raccourci, un peu rapide.
Pas mal.
Un instrument de mort pour exécuter la peine capitale. Et pourtant, c'est elle qui deviendra le symbole universel de la chrétienté, tout comme le croissant l'est pour l'islam et l'étoile de David pour le judaïsme. La croix s'est imposé au détriment du symbole bien plus antique qu'est le poisson. Symbole du mystère de Pâques, la croix rappelle bien évidemment la mort du Christ, mais aussi sa résurrection. Elle est vide, comme le tombeau pascal. Mais l'adoption de ce symbole par la chrétienté n'est pas forcément fidèle à la réalité qui fonde le christianisme.
Doit-on considérer la croix comme un objet de supplice, finalement ?
Il ne serait jamais venu à l'esprit des chrétiens des premiers siècles de faire de la croix leur signe distinctif. Si elle a été d'abord l'instrument du supplice du Christ, de nombreux chrétiens sont eux aussi morts crucifiés pendant le temps des persécutions. Difficile dans ce cas d'en faire un symbole de vie et de victoire. Ceci explique peut-être aussi pourquoi il nous est impossible de la décrire aujourd'hui avec précision. Le poisson était en temps de persécution un signe de reconnaissance bien plus discret. Il faisait écho d'ailleurs à plusieurs passages des récits des évangiles.
Doit-on parler de vénération de la croix, Martine ?
Alors, Emmanuel, il faut attendre le 5e siècle pour en trouver quelques représentations. Donc, comme je l'expliquais au début de cette émission, la légende rapporte que l'empereur Constantin a eu la vision de la croix comme signe de victoire. Il adoptera d'ailleurs ce signe comme étendard. C'est aussi à la même époque que remonte la fête de l'Inventio Crucis, qui célèbre le fait d'avoir retrouvé la vraie croix, croix du Christ à Jérusalem. La croix fixée dans sa forme latine va devenir objet d'adoration. Cette vénération va être confortée par l'introduction du signe de la croix, auquel sera conférée une véritable efficacité. Ceci d'ailleurs, Emmanuel pourra peut-être faire l'objet d'une autre émission, le signe de la croix.
Très bonne idée, Martine.
Ou le signe de croix. Alors la piété liée à la croix ne concerne pas la mort du Christ au Vendredi Saint, mais bien à sa résurrection, Pâques. C'est un signe de victoire sur la mort. Elle orne les caveaux, comme pour dire l'espérance de la résurrection. Et c'est au XIIe et XIIIe siècle qu'apparaissent, sous l'impulsion des franciscains, les crucifixes avec le Christ souffrant. À partir de ce moment-là, l'accent va porter sur la passion et trouvera son apogée au XVe siècle. Le retable d'Isenheim en est l'illustration la plus frappante. Au XVIe siècle, la réforme prendra ses distances avec l'adoration de la croix, adoptant d'ailleurs, au XVIIe siècle, un autre symbole, la croix huguenote. C'est un autre programme. Plusieurs pasteurs ont refusé l'introduction de croix dans les temples quand le protestantisme a été à nouveau autorisé au XIXe siècle. Il lui préférait le symbole de la Bible sur les frontons et sur les tables de communion.
Comment doit-on interpréter cette expression « celui qui porte sa croix »
Il n'est pas rare de nos jours que la croix soit offerte ou portée comme il s'agirait d'un simple gris-gris, protégeant du malheur. La loi française, qui interdit maintenant son port ostentatoire en milieu scolaire, rappelle que la croix a un sens bien identifié. Elle est symbole d'une foi qui s'affiche. En son temps, Jésus disait aux responsables religieux « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens ! Quand vous êtes des hommes faux, vous ressemblez à des tombes peintes en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os, des morts et de toutes sortes de choses pourries. » De la même façon à l'extérieur, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Porter sa croix, c'est d'abord une démarche intérieure. Et oui, nous portons en nous nos détresses, nos douleurs, et la croix est salvatrice.
Nous venons d'écouter le chant « Victoire, tu régneras », merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre volet de Chanter pour le Seigneur. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Martine.
Merci Emmanuel et au revoir à tous nos amis auditeurs. À la semaine prochaine.
C'était « Chanter pour le Seigneur ». En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.